France Culture.
C'est un racisme tout aussi violent, tout aussi latent, mais un racisme passé sous silence, le racisme anti-asiatique, véhiculé par des discours de proximité, comme par la culture populaire. Il s'appuie sur des clichés multiples, fourbes, forts en arts martiaux, dociles, travailleurs, androgynes, immigrés, modèles, j'en passe. Mais comment ce racisme-là frappe-t-il des centaines de milliers de nos concitoyens et des personnes vivantes en France? Pourquoi est-il tu, surtout? Alors pour en discuter, trois invités ce soir. Lynn Landau, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes journaliste à France Télévisions et autrice du livre qui vient de paraître et intitulé « Vous, les Asiates », c'est aux éditions de Noël. Face à vous, Rui Wang, bonsoir. Vous êtes conseiller municipal place publique de la ville de Pantin en Seine-Saint-Denis. Vous êtes par ailleurs cofondateur de l'association des jeunes chinois de France. Et à vos côtés, Audrey Nivet, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes une personne d'origine vietnamienne, née en France, et vous êtes par ailleurs accompagnatrice périnatale. Merci à tous les trois d'être ce soir dans Question du Soir.
Quotidien, moi je sais pas faire face à cette situation. Je prends un exemple, je me balade dans le quartier de Belleville à Paris et un monsieur m'arrête en me demandant où est le défilé chinois. Et moi je ne savais pas quoi lui répondre, donc je lui dis écoutez, je ne sais pas. Il me dit mais comment ça vous ne savez pas? Et moi je sais pas comment réagir face à cette situation. J'ai un autre exemple, un monsieur qui vient me voir, il me parle chinois. Et je lui réponds très gentiment, excusez-moi, je préférais qu'on parle en français parce que je suis plus à l'aise en français. Mais il va continuer à me parler en chinois en me disant, moi j'apprends le chinois et j'aimerais bien pratiquer. Et en fait, le problème que j'ai, c'est qu'on est toujours en train de se justifier, c'est-à-dire qu'on doit apporter avec nous le poids de la Chine, de la culture.
On renvoie vos origines.
On renvoie constamment à mes origines. Il y a un problème de droits de l'homme. Moi, je dois justifier. Alors, c'est à moi qu'on pose ces questions-là. Et c'est un problème.
Un témoignage de l'illustratrice Kélam, c'était sur RFI en mars 2018. La dimension peut-être positive, c'est que vous avez ri ou souri tous les trois en écoutant ce témoignage. Alors on va commencer par vous, par vos histoires, parce que vous avez des trajectoires, des sensibilités, des situations, des projections différentes évidemment. Mais vous vivez tous les trois en France et vous avez tous les trois vécu ce racisme anti-asiatique. Lynn Landau, est-ce qu'une anecdote en particulier pourrait illustrer, encapsuler cette façon qu'a le racisme de frapper les personnes asiatiques en France?
Ça a commencé assez tôt pour ma part, mais je me souviens qu'à l'âge de 16 ans, mon deuxième petit ami recherchait spécialement une copine asiatique et a demandé à une amie commune de jouer les entremetteuses. Ça, je ne le savais pas. Et quand je l'ai rencontrée et que je suis arrivée pour la première fois dans sa chambre, il y avait un énorme poster de Marjolaine Bui, qui est une candidate d'origine vietnamienne de télé-réalité, dans une position hyper sexy. Et Jérémy, donc mon ex-copain, signait ses textos, ma fleur d'Asie. Et il se trouve qu'il m'a largué un peu plus tard pour une autre asiatique apparemment. Donc c'était assez blessant de se voir fétichiser de cette manière. Et je rappelle que la fétichisation, ça n'a rien à voir avec une appréciation sincère humaine. C'est un racisme avec une déclinaison sexuelle.
Rui Wang, une anecdote aussi peut-être dans le milieu scolaire vous concernant?
Moi, j'étais en CE2. Je commençais ma première année de scolarité normale parce que je venais en France à 7 ans et demi et je ne parlais pas français. Donc, j'ai fait une première année d'apprentissage du français. Et puis ensuite, je vais en CE2 et j'ai été accueilli par des camarades qui rigolaient, qui tiraient les yeux, qui imitaient l'accent soi-disant chinois. En fait, plus tard, on sait que c'est l'accent Michel Leeb. Et en fait, ils rigolaient comme ça. J'étais accueilli tous les matins avec ça, pendant des minutes et des minutes dans la cour de récré. À cette époque, moi, je ne savais pas ce que cela veut dire. J'étais juste médusé et j'essayais de sourire pour détendre l'atmosphère et en fait me faire accepter parce que j'étais nouveau et je ne connaissais personne. Des années après que j'ai compris qu'il y avait une violence dans ça, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de m'accueillir, il s'agit de rire de moi et en fait, j'étais leur attraction. Et cette expérience-là nourrissait plus tard en fait une frustration que j'avais envie ensuite de faire des choses, mais l'enfant que j'étais ne comprenait absolument pas, et ça on le comprend trop tard parce que des années après, mais enfin je veux dire à l'époque on n'était pas capable de réagir, personne ne nous a appris à réagir.
Audrey Nivet, peut-être une anecdote qui raconte aussi ce racisme anti-asiatique qui vous a frappé et marqué?
Oui, alors moi, c'était dans le cadre du travail. Donc avant, j'étais ingénieure dans l'informatique, dans une SS2I. Donc voilà, j'étais en intercontrat, donc entre deux missions. Donc il suffisait d'aller voilà au siège de ma société pour faire acte de présence, aider un peu à la papasserie. À 17h, donc je commence à plier bagages, à partir. Et c'est là que mon manager de l'époque me disait « Ah bon, déjà, tu pars ?» Mais je croyais que les Asiates, vous êtes bosseurs, quoi. Je dis « Ben non, pas quand j'ai rien à faire, j'ai fini ce que voilà mon travail d'aujourd'hui. » Donc voilà, je commençais à en monter un peu en ton. Et c'est là qu'il me dit « Non mais c'est bon, hein, je rigole, ma femme elle est vietnamienne, donc voilà, je sais quoi. » Et c'est là que je dis « Mais je suis pas votre femme, donc... » Non. Enfin, moi, une fois que j'ai mis les deux pieds dehors, voilà, j'ai pas la peine de m'appeler. J'ai fini ma journée de travail. Point. Donc, c'était vraiment la première fois, en tout cas, de toute ma vie, où vraiment je commençais à voilà, ça bouillonnait, c'est sorti. Alors, d'habitude, ben, je suis plus souriante, j'encaisse. Je fais OK, bon, voilà.
Mais pas cette fois.
Pas cette fois.
Lin Landau, ce qui frappe, et c'est peut-être un paradoxe, d'ailleurs, on dit, on entend parfois dans les discours politiques, notamment, que la minorité asiatique en France serait une minorité modèle, qu'elle serait plus à même de s'intégrer à la société française parce qu'elle aurait des qualités innées, des qualités essentialisées. Et dans le même temps, cela va avec un racisme, je le disais, latent et singulier, puisque lié peut-être à des clichés perçu comme positif par une majorité de la population française.
Tout à fait, il y avait ce discours de Nicolas Sarkozy alors qu'il était président de la République, qui a quand même fait une sorte de dommage aux personnes originaires d'Asie parce qu'elles étaient bien intégrées, parce qu'elles étaient, selon lui, travailleuses. Donc c'était un discours pour le nouvel an lunaire. Et en même temps, cette même personne va dire qu'il faut nettoyer les banlieues au Karcher. Donc vous voyez que cette valorisation des communautés asiatiques n'est pas du tout sincère. Ça, c'est ce qu'on appelle des stéréotypes positifs qui sont liés à la minorité modèle, mais la minorité modèle, c'est un mythe, c'est quelque chose qui est utilisé pour dénigrer d'autres communautés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces stéréotypes positifs sont très ambivalents, parce qu'ils peuvent être enfermants. Par exemple, dans le cas d'Audrey, donc on a ce chef qui lui dit « Tiens, tu pars pas, tu pars à 17h, tu travailles pas, qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est-à-dire qu'il est surpris qu'elle ne soit pas à sa place, de bonne travailleuse, d'employé modèle qui est docile. Et finalement, c'est pas très valorisant quand on nous voit comme quelqu'un qui est corvéable à merci et qui ne compte pas ses heures. C'est vraiment assigner une personne à une case précise.
C'est intéressant ce que vous dites sur l'instrumentalisation de la communauté asiatique, notamment pour mettre à bas, pour hiérarchiser plus encore les autres communautés immigrées. Vous développez dans votre livre, dont je rappelle le titre, hein, « Vous, les Asiates », un concept intitulé « La triangulation raciale des Asio-Américains », un concept qui a été forgé en 1999, si vous pouvez nous l'expliciter à nouveau.
Oui, c'est un concept qui a été nommé par Claire Jin Kim, qui est une chercheuse américaine d'origine coréenne. Donc elle explique que cette triangulation raciale, c'est vraiment un groupe dominant qui va utiliser un groupe intermédiaire pour dénigrer un groupe qui est en dessous de ce groupe intermédiaire. Donc dans le cas des États-Unis, ce sont les Asio-Américains qui ont été utilisés pour saper les revendications des Afro-Américains dans les années 60. Et en France, on a ce même principe qui s'applique de triangulation raciale, où c'est le groupe des personnes d'origine asiatique qui vont être utilisées pour saper les revendications très légitimes des minorités noires ou des minorités maghrébines. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va présenter les Asiatiques comme des personnes qui réussissent exceptionnellement, qui ne sont pas des délinquants, mais en fait, ce mythe de la minorité modèle masque les disparités entre Asiatiques, parce que je rappelle qu'il y a quand même des Asiatiques qui sont pauvres, des Asiatiques qui sont précaires, il n'y a pas que des Asiatiques qui sont riches et qui réussissent. Ça, c'est pas la vérité. Et en plus, on ne peut pas comparer deux trajectoires migratoires qui n'ont rien à voir. On ne peut pas comparer, par exemple, des Asiatiques du Sud-Est qui ont été très bien accueillis dans les années 70, ces boat people, ces exilés, dont ma famille fait partie, avec des personnes, par exemple, des populations maghrébines qui sont arrivées comme force de travail, dont on n'attendait pas qu'elles restaient, etc., et qui n'ont pas forcément été aidées.
On en profite d'ailleurs pour rappeler que dans cette émission, on parle de racisme anti-asiatique. On considère le racisme anti-asiatique, notamment on se concentre sur l'Asie du Sud-Est, parce qu'il y a en France une singularité et peut-être aussi une taille prépondérante de ces minorités qui composent cette région. Ruy Wang, vous êtes d'accord avec l'instrumentalisation de ce MMM, ce mythe de la minorité modèle ?
Absolument. En fait... Moi, j'appelle ça du paternalisme, c'est-à-dire que il y a un enfant qu'on gronde parce qu'il est pas sage, il fait pas bien ses devoirs, et puis l'autre, il fait très bien ses devoirs. Mais au fond, il y a bien quelqu'un qui gronde, donc il y en a un qui est au-dessus et l'autre en dessous, et puis il y a quelqu'un qui est au milieu. Et donc, encore une fois, c'est une forme de violence, et jamais, en fait, on peut imaginer que celui qui est grondé puisse être au même niveau que les autres.
Qu'est-ce que ça provoque, j'allais dire, dans les communautés d'Asie du Sud-Est installées en France ou dans les personnes, parmi les personnes originaires de ces régions-là, d'être non pas instrumentalisé, mais d'être dans une espèce d'entre-deux, d'être entre dominant et dominé, là encore dans les représentations populaires et non pas dans la réalité?
Au fond, après, à travers tout ça, ça nous assigne un rôle et l'instinct de survie nous dit en fait faut faire plaisir quoi, faut jouer le jeu, qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire, fais-le et puis après t'as à manger quelque part, c'est ça le implicitement le deal. Mais une fois que on comprend ce jeu et que une fois qu'on peut quand même accéder à certaines positions, et on a envie de se défendre et de dire en fait j'ai plus envie de jouer à ce jeu.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un spectacle intitulé « Tout est possible » qui date de 2016. Il est incarné par deux humoristes, Kev Adams et Gad Elmaleh.
Hé là, Julie Jumper, concentre ton énergie et tu vas te sentir libéré.
Délivré.
Ah,
je ne mentirai plus jamais.
Ouais, je connais, Blanche-Neige.
Non, là, la reine des Nèmes. Reine des Neiges.
T'es sérieux là? Tu viens de faire un jeu de mots de Reine des Neiges, Reine des Neiges? Parce que t'avais bien reçu, non?
Bah oui.
Et tu viens de... Non mais tu imagines, c'est limite raciste. Imagine, il y a une famille... Écoute-moi bien, je connais l'humour. Imagine, il y a une famille de Chinois parisiens qui sont installés tranquilles.
Bonjour collègue.
Non, bah, t'es fou, quoi. Mais t'es fou, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu glisses dans la facilité avec deux jeux de mots, tu peux pas te cantonner un
cantonner,
genre...
Cantonner,
arrête, c'est fou. Ah, c'est malin.
Audrey Nivelle, l'une des singularités aussi, peut-être plus encore que parmi d'autres racismes, c'est que ce racisme anti-asiatique passe très souvent, excessivement même, par le truchement de l'humour. Comment est-ce que vous comprenez cela ?
Ah oui, là, il y en a pas mal. Là, pour les nems, comme je n'aime pas, voilà, avec le mot nems. Même moi aussi, j'ai eu le droit, tiens, tu sais pas faire des nems, enfin voilà. Parce que ma famille aussi, j'ai une partie de ma famille qui a été dans la restauration vietnamienne. Donc du coup, ils ont tenu un restaurant pendant longtemps et c'est vrai que voilà, je ne sais pas faire. Et c'est vrai que c'est voilà, à se mettre dans ce moule. Donc voilà, en plus moi j'ai fait de l'informatique à la base, je les mêmes tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup réagi jusqu'à présent parce que j'ai été éduquée par mes parents qui faisaient partie aussi comme l'Inland des boat people où c'était voilà, fais pas de vagues, on s'insère. En plus eux, ils sont venus avec ma mère ne parlait pas bien français, elle a appris en même temps que moi avec l'école. D'ailleurs, une anecdote aussi je suis en train d'y penser. J'étais exclue de l'école en maternelle parce que je ne parlais pas français avec ma professeure, quoi. Donc elle dit, mais je comprends pas ce qu'elle raconte, votre fille, ramenez-la chez elle, apprenez le français avec elle, quoi. Donc
très violent.
C'est ultra violent, quoi. Moi, je me rends pas compte, j'ai plus les souvenirs de ça, mais c'est vrai quand mes parents m'en parlent, je me dis, exclue de l'école parce que je parle pas français à 3 ans quoi. Enfin...
C'est d'une violence inouïe pour vous et pour vos parents. On l'imagine, l'Inland Dao, ce sketch, l'extrait de ce sketch qu'on vient d'entendre, c'est le point de départ de votre livre et peut-être ce qui vous incite à vous lancer dans ce travail d'écriture. Qu'est-ce qui vous a frappé, stupéfié, absolument dérangé dans ce sketch ?
c'est vraiment ce sketch, le point de départ de mon engagement, effectivement. Alors, ce qui m'a stupéfiée, c'est effectivement ces costumes pseudo-traditionnels chinois, le fait que l'accent soit totalement caricatural, et puis... Ben, c'est d'une nullité, sans fond. Ces blagues sur les nems et les chiens, on les a entendues mais 10 000 fois. Et je me suis dit, comment est-ce que, en 2016, il me semble, comment est-ce que pourquoi est-ce que j'entends ce type de blague que j'entendais pendant la cour de récréation? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 20-25 ans? C'est-à-dire que les choses n'ont pas du tout changé. Il y a donc ces célébrités. Quand on est humoriste aussi célèbre que Kev Adams et Gad Elmaleh, on a quand même une certaine responsabilité. Comment est-ce que ça se fait qu'il y ait des millions de personnes qui rigolent encore devant ce sketch? Et la réponse, c'est que aujourd'hui, il y a une certaine tolérance morale envers l'humour raciste, et notamment l'humour raciste envers les Asiatiques. C'est pas devenu assez moralement condamnable pour l'instant. Et je remarque dans mes témoignages que j'ai recueillis pour le livre que les personnes asiatiques soulignent qu'il y a souvent ce racisme qui est fait sous couvert d'humour. Mais je rappelle que le racisme est un délit et que c'est pas parce qu'on fait une blague raciste que ce n'est pas un délit.
Vous avez l'impression que ce racisme anti-asiatique est plus toléré que les autres, que c'est entre guillemets plus facile, malheureusement, de faire des blagues à l'encontre des personnes asiatiques?
Alors j'en ai l'impression, mais après, bien sûr, je n'ai pas envie de comparer... D'établir une hiérarchie à nouveau entre les différentes communautés, mais effectivement, je me demande si ce genre de blague aurait pu être possible envers d'autres communautés. C'est pas pour diminuer les souffrances d'autres minorités qui vivent de plein fouet le racisme systémique, notamment en termes de discrimination à l'embauche et au logement, ce que les Asiatiques vivent aussi, mais dans une moindre mesure. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses que les gens se permettent aujourd'hui qui ne se permettraient pas avec d'autres communautés.
Rui Wang, est-ce que vous estimez vous-même qu'il y a une tolérance plus grande, j'allais dire, à l'égard de ce racisme anti-asiatique? Là, encore une fois, pas pour établir une hiérarchie, mais pour tenter de comprendre pourquoi ces clichés-là se diffusent plus largement, plus rapidement également.
En fait... il y a des clichés et le racisme sert en fait à véhiculer, les blagues, l'humour raciste sert à véhiculer les clichés et les installer. Et ça se perpétue de génération en génération. Parce que, alors mon fils de 5 ans commence à entendre des remarques sur le fait qu'il soit chinois. C'est comme une chanson, quoi. Ça permet de mieux apprendre et retenir. Maintenant, à mon avis, ce genre de blague, aujourd'hui, ça nous choque parce qu'encore une fois, nous sommes capables, il y a des gens qui sont capables de les dénoncer alors qu'avant, on ne savait pas faire. Mon père aussi, avant, mon père, il parle pas très bien français, il avait comme objectif de survivre et faire survivre sa famille. Donc, lui, si on lui faisait ce genre de blague, il les accepterait. Aujourd'hui, moi, je les accepte pas ou je suis capable de répondre. En fait, on est vraiment en train de pointer sur quelque chose. C'est une anomalie qui s'était banalisée. Voilà.
Je vais vous redonner la parole. Qu'est-ce que le Covid, Rui Wang, a transformé ou a accéléré? Est-ce que vous avez le sentiment que ce racisme anti-asiatique s'est multiplié ou accéléré depuis la crise sanitaire? Parce qu'on a beaucoup entendu que c'était les Asiatiques et notamment les personnes chinoises qui auraient amené le virus en France, et les violences se sont accrues à l'encontre des personnes chinoises en France ou des personnes asiatiques.
Le monde est complexe et en fait il faut forcément caricaturer ou mettre les choses dans des cases pour que le cerveau ait plus de facilité à comprendre. Donc forcément à cette époque on a dit que voilà, le virus venait de Chine et puis quelque part les Chinois en sont responsables. Donc ce type de peur ou de crainte, ça rappelle le péril jaune, existe depuis longtemps et en fait parfois font des réapparitions. Mais la différence, c'est que, en fait, c'était vraiment le sujet d'actualité, le Covid. Alors forcément, tout le monde en parle, et puis on cherche le coupable. Ah bah tiens, j'ai trouvé, c'est mon voisin, il est chinois, et puis c'est lui le coupable. Voilà. Mais au fond, c'est quelque chose que nous avons combattu ensemble, mais peut-être demain, l'année prochaine, ça reviendra. Voilà.
Audrey Nivet, vous avez le sentiment vous-même que cette crise sanitaire, ce Covid, a changé la donne au niveau des représentations racistes anti-asiatiques?
Peu à de temps après, lorsqu'il y a la réouverture, si je peux dire ça comme ça, quand je prends souvent les transports en commun, hein, je le voyais, donc je m'assois et là, je suis toute seule, tranquille, mais on sent que les gens s'éloignaient et se disent, je vais pas m'approcher de cet Asiate.
Les gens s'éloignaient de vous, oui. Dans le métro?
Oui. Donc, je me dis, j'amène la peste ou quoi, mais oui.
Vous avez prononcé un mot, une expression Ryu Wang, celle de péril jeune. Je voudrais donc qu'on remonte le fil de cette expression et le cours de cette histoire à travers une archive de 1967, dossier signé de l'ORTF. Et on va entendre quelques Français qui expriment leur représentation.
Vous devez quand même avoir une petite idée du chinois, non ?
Oh oui, j'ai peur du nombre. J'ai peur du nombre, ils sont tellement nombreux. Qu'est-ce que voulez-vous que nous fassions, nous, pour petits Européens, les Chinois, s'ils se mettent à remuer ?
Je pense qu'ils sont quand même arrivés à un certain stade où on peut vraiment en avoir peur.
Est-ce que vous croyez à l'occupation de la France par les Chinois ?
Non, mais je ne croyais pas non plus à l'occupation de la France par les Allemands et c'est arrivé.
Certains disent que les Chinois viendront nous bouffer. Oui. C'est pas vrai, ils se boufferont avant entre eux.
Je n'aime pas tellement, parce qu'il me faut très peur. Je pense à ce qui va se passer plus tard.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler, quand vous étiez petit, du péril jaune ?
Oui, on en parle, même maintenant, on en parle toujours, mais...
Est-ce que vous y croyez, vous ?
C'est possible dans quelques années.
C'est quoi l'Inland Daos, ce péril jaune, les représentations qui lancèrent là aussi un concept forgé par un économiste français à la fin du 19e siècle ?
Exactement. Le péril jaune, donc, c'est une sorte de mythe raciste qui est né au 19e siècle et qui imaginait que la force japonaise et la force chinoise allaient s'allier. Donc la force japonaise à la force militaire et les Chinois ont le nombre, qu'ils allaient s'allier ensemble pour aller conquérir l'Europe, pour aller se déverser sur l'Europe et envahir tout le monde. Donc c'est une sorte de variante du grand remplacement.
C'est un peu l'ancêtre du grand remplacement.
C'est un peu l'ancêtre du grand remplacement. Donc il y avait cette peur du nombre. On le voit dans des textes de l'époque coloniale qui décrivent des Chinois qui sont très très habiles ou qui travaillent vite et bien, qui sont super forts. Et en fait, on se rend compte que tous les stéréotypes positifs sur les Est et Sud-Est asiatiques proviennent de cette époque coloniale. On en parle aujourd'hui, mais en fait, ils sont nés d'il y a très 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 longtemps. Et donc, ce péril jaune, finalement, peut se réactiver aujourd'hui avec la guerre économique. On est en plein dedans, que peuvent se mener les États-Unis et la Chine. Et en fait, on va avoir cette idée, par exemple, dans le traitement médiatique, que la Chine, par exemple, est une menace. J'ai vu des unes qui étaient vraiment très digne du péril jaune, qui disait cet ogre chinois qui va nous bouffer, etc. Enfin, des magazines économiques. Mais on est en plein dans cette thématique qui revit dans l'actualité.
On a parfois l'impression, fausse, que ce racisme anti-asiatique est moins lié que d'autres racismes à la question coloniale. Or, dans ce domaine, la question coloniale est absolument structurante. L'Inland Dao, il faut nous expliquer, j'allais dire, de quelle façon.
Je vais parler, comme je suis d'origine vietnamienne, je vais parler un petit peu de l'Indochine. Mmh. Mais effectivement, le colon, quand il est allé en Indochine, il a trouvé peut-être des Indochinois très travailleurs, mais il les exploitait en fait. Et donc, il s'est forgé cette idée que l'Indochinois était très travailleur. Et il y a eu des personnes qui ont été enrôlées presque de force pendant les premières et la Seconde Guerre mondiale pour travailler, pour fabriquer de l'armement, parce qu'on pensait qu'elles allaient être particulièrement habile. Et donc ça vient bien de l'époque coloniale, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a encore cette idée reçue que les Asiatiques sont particulièrement travailleurs, dociles et productifs, alors qu'ils ne faisaient que remplir finalement leur rôle qu'on leur demandait à l'époque coloniale, dans les colonies.
Je voudrais vous faire entendre une autre archive. Celle-ci date de 2018. Elle raconte l'histoire tragique d'une agression ayant entraîné la mort d'une personne d'origine chinoise vivant en France.
La famille de Shaolin Zhang est arrivée ce matin silencieuse à la cour d'assises pour mineurs de Bobigny, qui va juger à huis clos les meurtriers du couturier chinois. Pour les proches de la victime, le vol avec violence qui a entraîné la mort n'était pas seulement crapuleux, mais aussi raciste.
Pour nous, effectivement, le caractère raciste ne fait aucun doute d'agresser ces individus parce qu'ils étaient d'origine chinoise et que les Chinois ont de l'argent.
Shaolin Zhang avait été agressé à Aubervilliers par trois jeunes qui lui avaient arraché sa sacoche. Frappé violemment à la tête, le couturier était mort quelques jours plus tard. Son agression avait suscité une émotion considérable dans toute la communauté asiatique, qui avait dénoncé un climat de racisme dont elle serait en particulier victime.
Vous étiez, Rui Wang, à l'époque largement mobilisé pour tenter justement de sensibiliser à cette question de racisme et de violence hein, qui est absolument liée à la première question. Est-ce que cet événement-là, tragique, a permis de changer la donne et a ouvert les yeux, j'allais dire, au moins d'une partie des responsables politiques et au-delà d'une petite partie de la population française sur ce racisme spécifique et violent ?
On a pu mettre les mots sur le mal. Parce que c'est quelque chose qu'on subissait. Et on savait, depuis des années, qu'il y avait des clichés qui portaient préjudice à notre quotidien.
Ce cliché, c'est notamment le cliché selon lequel les personnes asiatiques, les personnes chinoises, notamment, porteraient sur eux de l'argent et des sommes importantes d'argent.
De l'argent, et puis qu'ils ne parlent pas, qu'ils subiraient. Et donc, ça s'est manifesté d'abord par des agressions verbales, ensuite par des agressions physiques, et puis un jour par une agression physique qui entraînerait la mort. Mais je voudrais signaler que la mort de ce monsieur, on a manifesté, mais ce n'était pas simplement une personne qui a été agressée, c'était beaucoup de gens, et en fait ça arriverait, on savait que ça arriverait. Je voudrais revenir sur tout à l'heure ce que Lynn Landau, vous avez dit à propos des clichés et aussi de l'époque coloniale. En réalité, les clichés parfois peuvent servir à des projets coloniaux ou des projets économiques. Je m'explique. Pour motiver les soldats à envahir des pays étrangers, notamment l'Indochine ou parfois la Chine, eh bien, il fallait bien dire à ces jeunes hommes qu'on trouverait des femmes magnifiques et prêtes à s'offrir sexuellement à ces messieurs. Pour motiver des entreprises à s'installer dans des endroits, il fallait bien leur dire qu'on pouvait recruter des travailleurs serviables et serviles.
Et une main-d'œuvre docile.
Et docile. Donc, quelque part, les clichés servent à asseoir cette domination. Et celui qui envoie ces signaux-là, en fait, il a quelque part un projet bien installé, enfin bien dessiné à la base. C'est ça ce que je voulais vous dire.
Je reviens un instant, Rui Wang, sur la mobilisation. Il y a un autre cliché qui concerne les personnes asiatiques ou d'origine asiatique vivant en France. C'est l'idée selon laquelle ils seraient absolument dépolitisés. Est-ce que c'est le cas d'abord ? Est-ce qu'ils sont moins politisés, j'allais dire, que la population générale ? Et surtout, est-ce que cette tendance-là est en train de s'inverser ?
Ah, on commence à l'ouvrir, donc forcément, ça l'est moins. Mais c'est vrai que
quand... Vous l'ouvrez tous les trois, mais au-delà.
C'est vrai que quand on regarde nos parents, ils subissaient. Hein. Et puis, c'est simple, nos parents parlaient moins bien le français ou ne parlaient pas le français. Donc, quand on dit, oui, c'est une communauté discrète, bah forcément, si mon père ne sait pas parler le français, ne sait pas répondre, il se fait tout discret. C'est mécanique. Mais nous avons tous été aujourd'hui éduqués par les hussards noirs de la République ou leurs héritiers. On nous a appris, quand on était à l'école, que nous étions égaux et qu'on avait les mêmes droits que tout le monde et que nous pouvions être considérés comme tout le monde. Et pourtant, dans la vie réelle, parfois, on nous renvoie à nos racines, à ce qu'ont fait nos parents, ou ce qu'ont fait nos pays d'origine. Et ça nous gêne, parce que en fait, on a tout le temps, comme tu dis, on a tout le temps l'impression d'avoir à se justifier. Et jamais, on a l'impression que jamais on nous considérera comme suffisamment français. Et en fait, c'est là qu'il y a une frustration entre le message d'origine et la réalité. Si on était dans un autre pays qui nous dit, il y a les étrangers et puis il y a les autochtones, les étrangers, ils seraient encore étrangers 10 générations après, bon, bah ok, on accepte le deal. Mais c'est pas ça le message de la République française. Donc, quelque part, en fait, on aimerait que la théorie soit appliquée dans la société réelle.
Audrey Nivet, vous avez le sentiment, vous aussi, de devoir vous justifier constamment, qu'on vous ramène toujours à cela, toujours à cette question des origines, de l'identité ?
J'ai une autre vision, plus par rapport à ma mère. C'est vrai qu'elle, voilà, elle fait partie des boat people, et je sais qu'elle est, voilà, par rapport à la France, donc c'est un pays qui l'a accueilli, et c'est vrai qu'elle m'a toujours dit, voilà, je remercie la France de m'avoir accueilli. voilà, ouvert les bras à ce moment-là. C'était la guerre, c'était voilà. Donc j'ai, ouais, c'est plus sa vision à elle, donc au niveau politique, parce que en plus elle fuyait le communisme là-bas, donc c'est un autre contexte. C'est donc voilà, moi j'ai plus en tout cas grandi avec cette image de la France nous a accueillis, on lui doit bon, voilà, de bien. D'être bien, d'être docile, etc., de pas faire des vagues et d'être reconnaissant, mmh. Chercher le mot. D'être reconnaissant parce que c'est une terre d'accueil qui m'a permis voilà, d'avoir du boulot, d'avoir maintenant une situation convenable. Oui, voilà.
Lilian Daos, si votre livre est passionnant, c'est aussi parce qu'il y a un vent d'optimisme dans les derniers chapitres pour tenter de faire évoluer justement ces représentations et plus précisément sur les moyens d'y parvenir. Et il y a un sous-chapitre en particulier qui m'a intéressé, c'est tenter de mieux faire connaître le rayonnement culturel de l'Asie à travers ses œuvres. Il y a la question des œuvres, il y a la question plus large par ailleurs de la mémoire. Et c'est vrai que cette présence culturelle en Asie, dans le fond, les Français la connaissent assez mal, on l'enseigne assez peu. Comment est-ce qu'on peut tenter de la diffuser plus avant ?
Je pense que résoudre la question du racisme, ça passe bien sûr en partie par l'éducation, les représentations, créer des médias en France qui parlent des communautés asiatiques. Voilà.
Et il y en a de plus en plus d'ailleurs.
Il y en a de plus en plus. Je vais en citer plusieurs, mais Koi Magazine, Bang Me Podcast, Asiatitude, / Asian. Je suis très optimiste parce qu'on a quand même des deuxième et des troisième générations d'Asiatiques qui sont très motivées, très politisées, qui n'ont pas envie d'avoir cette injonction à la gratitude, d'être endettés pour toute la vie, eux et leurs enfants, envers la France, parce qu'on est né ici. Parfois, on me dit, quand je suis critique, on me dit, mais si t'es pas contente, t'as qu'à partir, t'as qu'à retourner chez toi. Chez moi, c'est Bagneux dans le 92, donc je vais pas aller très très loin. Donc oui, effectivement, il y a un volet à faire avec l'éducation, la sensibilisation, aller dans les écoles pour parler du racisme anti-asiatique. Effectivement, qu'il y ait plus d'asiatiques parmi les journalistes, parmi les acteurs les acteurs du cinéma, les acteurs de la société publique, en politique également, on a besoin de plus de personnes d'origine asiatique. Mais ça, c'est une partie. Je pense qu'il y a quand même, il faut faire la révolution par le bas et puis par le haut aussi, par les institutions. Et pour cette révolution, il faudrait qu'on puisse mesurer ces discriminations, qu'on puisse les quantifier. Il faut des statistiques pour montrer que ce problème est bien réel, si on veut trouver des solutions.
Sur la mémoire, j'y reviens. Cette mémoire aussi, elle est absolument méconnue. Qui connaît aujourd'hui l'effort des personnes asiatiques, l'effort de guerre durant la Première Guerre mondiale, notamment pour tenter d'inhumer les corps des soldats décédés? Qui connaît l'histoire réelle des boat people? Qui connaît l'histoire réelle également de la guerre d'Indochine et de toutes ces, j'allais dire, de toutes ces histoires que l'on connaît extrêmement mal? Comment est-ce que l'on peut tenter de les diffuser là aussi un peu mieux pour tenter de faire comprendre, voilà, justement, que les personnes asiatiques sont pleinement intégrées à l'histoire française?
Eh bien, cette mémoire dont je parle dans le livre, je suis chagrinée de ne pas l'avoir eue à l'école, par exemple. Ça devrait peut-être faire partie du programme. Pas seulement parler de la décolonisation, mais parler de cette époque coloniale et de ce qu'elle a provoqué.
Et de la colonisation.
Et de la colonisation, ce que ça continue de provoquer chez les gens. En fait, le problème, c'est l'amnésie. L'amnésie, on ne peut pas comprendre les discriminations qu'il y a aujourd'hui si on ne comprend pas l'histoire coloniale et ce que la France a fait à ses colonies et aux ressortissants colonisés. Donc une fois qu'on aura ce trait d'union, on pourra effectivement mieux comprendre. Ça, j'ai envie de l'apprendre dans les écoles. Et puis c'est aussi important de parler à nos premières générations. Ils ont énormément souffert, ils sont traumatisés, ils se murent dans le silence. Et ce serait bien que ces personnes ne partent pas en emportant leurs secrets et leurs douleurs avec elles. Et c'est pour ça qu'il y a plein de projets qui sont faits de mémoire, justement, de, par exemple, CASH 50, qui recueille des survivants du génocide Khmer. Voilà, et c'est important que ces personnes ne disparaissent pas avec leurs histoires.
Rui Wang, une réaction, je vous en prie.
Je peux ajouter un point. En fait, c'est super parce que maintenant, il y a des initiatives qui sont lancées par les premiers concernés. Alors que Avant, c'était peut-être des initiatives qui sont proposées par l'autorité tutélaire. Et en fait, les personnes concernées s'adaptaient pour peut-être faire plaisir un peu, plus ou moins, à l'autorité tutélaire. Je m'explique. Chaque année, vous voyez, il y a le défilé du Nouvel An chinois. Bon, c'est super. Mais quand vous allez regarder l'audience, les personnes qui viennent assister au défilé du Nouvel An chinois, vous avez le public, qui est majoritairement la société majoritaire, les blancs, pour caricaturer. Et puis, vous avez les Asiatiques, qui sont où? Bah, qui sont dans le défilé, mais déguisés. Bah, au fond, j'aimerais qu'un jour, l'initiative vienne des premiers concernés.
Qu'est-ce que concrètement ça transformerait? Qu'est-ce que ça changerait?
Bah, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça que pour montrer au public, mais on le fait pour nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que les projets de mémoire, ce n'est pas seulement pour éduquer la population, mais c'est aussi les enfants ou les petits-enfants veulent savoir d'où on vient, c'est quoi mon histoire, quelle est l'histoire de ma famille, pourquoi est-ce que je suis né en France alors que je n'ai pas le visage comme la plupart des autres camarades. Et ça, on aimerait savoir. Et ça, c'est quelque chose qui, dans l'éducation, dans la croissance d'un individu, lui permet de trouver son identité et de ne pas avoir de blessures. Donc, les initiatives que Lin Nanda ont citées, ça vient vraiment des premiers concernés. Et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, oui, on fait des choses pour faire plaisir. Moi, personnellement, j'ai jamais assisté au défilé du Nouvel An chinois. Parce que ce n'est pas dans ma culture. Jamais dans ma famille, on s'habille comme ça. Et jamais je ne fais la danse du lion. Donc, je suis pas en train de dire que c'est le zoo humain. Mais je suis en train de dire que...
Ça fait beaucoup dans le passé, Linlandao, cette expression que vous venez d'employer là.
Je suis en train de dire que dans le passé, nos parents faisaient des choses pour faire plaisir à l'autorité tutélaire, le gouvernement. Et d'ailleurs, ils étaient éduqués à ça. Que ce soit dans l'ex-Asie du Sud-Est ou en Chine continentale, on leur a appris à faire plaisir et obéir à l'autorité. Et grâce à la France, alors on nous a appris à désobéir et l'ouvrir, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que ces initiatives qui viennent de la base et des premiers concernés doivent être soutenues. Ils sont non seulement destinés à éduquer la société, mais aussi destiné à s'éduquer soi-même. Voilà.
Merci beaucoup à tous les trois de cette discussion, de ces témoignages également. Lin Landau, je rappelle que vous êtes journaliste à France Télévisions, autrice du livre intitulé « Vous, les Asiates » qui a apparu en mars dernier aux éditions de Noël. Rui Wang, conseiller municipal place publique de la ville de Pantin en Seine-Saint-Denis, cofondateur de l'Association des jeunes chinois de France. Audrey Nivet, personne d'origine vietnamienne, née en France, vous êtes par ailleurs accompagnatrice périnatale. Merci à tous les trois de l'avoir ouverte.
Merci.